Bon, c'est toujours un privilège pour moi d'être là, dans la maison du Seigneur, surtout pour partager la parole du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais bien porter le message dans un livre qui n'est pas facile, un livre qui est vraiment difficile, mais ça fait plusieurs mois que je suis en train de réfléchir sur ce livre et que Dieu m'a aider à préparer le message sur ce livre et j'espère que à travers ce message Dieu va vous bénir. Je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, je vais lire du verset 1er à 14. La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, humain, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Parle en prophète sur ces ossements. Tu les diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons. Je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un souffle. Vous vivrez. Et ainsi vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Je parlais en prophète selon ce qui m'avait été ordonné. Et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit, il y eut un frémissement. Et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons. La chair se mit à pousser et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain, tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents au souffle, souffle sur cette tuée et qu'il revive. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné, alors le souffle vint en eux, il respire vie et se tint debout sur les jambes. C'était une grande armée, une armée immense. Il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète, tu les diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombeaux, j'ouvre vos tombes, je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre et ainsi vous saurez que c'est moi le Seigneur qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur. N'est-ce pas magnifique ce livre? J'aimerais bien vous dire, avant de commencer, que moi, étant que serviteur de Dieu, je n'ai pas l'intention de me comparer avec les grands docteurs, les grands théologiens que Dieu a donné la possibilité d'expliquer toutes ces visions que Ézéchiel, étant que le prophète de Dieu, a eues. Mais ce matin, à travers la lumière de la parole de Dieu, je vais essayer de vous apporter quelques éclaircissements. Tout d'abord, ce prophète Ézéchiel, j'aimerais bien vous parler un peu de cet homme. Le livre d'Ézéchiel est l'un des moins connus de la Bible, parce que c'est très difficile, c'est un livre qui n'est pas facile à manier. Et pourtant, sans parler de sa portée prophétique, il contient, comme toute la parole de Dieu, de précieuses leçons spirituelles. Et les premiers versets, et tout à l'heure, Jean-Claude a cité Ézéchiel chapitre 1er, il a cité un verset, et ça m'a fait un peu, j'ai rigolé un peu dans le sens que je dis Dieu, il sait faire les choses. Les premiers versets de son livre nous donnent quelques renseignements sur la personnalité du prophète. Et Ézéchiel, comme Jérémie, il était sacrificateur. Mais étant captif en Chaldée, il ne pouvait exercer sa charge. Et on a appris qu'il habitait une maison qui lui avait été peut-être donnée près du fleuve Kébar. Il était marié, mais au cours de son ministère, sa femme mourut subitement. Mais ce matin, ce n'est pas la personne d'Ézéchiel qui nous intéresse, mais c'est la personne de Jésus à travers les prophéties d'Ézéchiel. En l'an 607 avant notre ère, Jérusalem fut détruite et un grand nombre de Juifs survivants furent emmenés en exil en Babylonie. La nation juive était pratiquement morte. La majorité des exilés n'avaient aucun espoir de vivre de nouveau comme une nation dans le pays que Dieu leur avait donné. La Babylonie semblait devoir être la sépulture de leur nation. Alors, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, allait-il ressusciter son peuple? Son peuple, le peuple d'Israël qu'il a choisi. Dieu a choisi le peuple d'Israël, ce n'est pas parce que ce peuple était meilleur que les autres peuples, mais c'est son choix, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il fait ce qu'il veut. Il a choisi ce peuple parce qu'il l'aime. Il a choisi ce peuple parce qu'il le veut. L'autre question que j'aimerais bien poser, où le trouver encore sur la surface de la terre, ce peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est dispersé. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que une telle résurrection n'était pas trop difficile pour le Seigneur notre Dieu. Ça peut paraître vraiment difficile pour nous les humains, mais pour Dieu, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout difficile. Des années auparavant, il avait accordé au fidèle prophète Élie et Élisée le pouvoir de ressusciter des morts. Notre Dieu, c'est lui qui nous accorde le pouvoir de faire des miracles. Et l'Éternel Dieu avait accordé le pouvoir à Élie et à Élisée. Il avait accordé le pouvoir à Élisée de faire 7 miracles. Mais il avait promis à Élie, il avait promis à Élisée de faire le double d'Élie. Élisée avait fait 13 miracles, mais Dieu, comme il tient toujours sa promesse, il a ressuscité les os, il a pris les os d'Élisée pour accomplir le 14e miracle. N'est-ce pas merveilleux? Dieu, il tient toujours ses promesses. Notre Dieu, il est toujours là. Il nous regarde et il nous donne tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Comme le peuple Israël, ce peuple, à cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance, ce peuple a été dispersé parce qu'il n'avait pas écouté la voix de l'Éternel. Mais Dieu avait son plan. Malgré la désobéissance de son peuple, Dieu tient à tenir sa promesse. Mes amis, il n'est pas du tout surprenant que dans une vision, le Seigneur Dieu ait révélé à son prophète Ézéchiel qu'il allait ramener à la vie la nation défunte, à savoir la nation d'Israël. Sous l'action de l'Esprit de Dieu, Ézéchiel entendit une voix lui poser cette question. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils venir à la vie? Ézéchiel se trouvait dans une vallée où il y avait, cette vallée était remplie d'ossements. Mes amis, imaginez-vous, vous êtes trouvés dans une vallée et il n'y avait que des ossements dans cette vallée. Ça doit être effrayant. L'Éternel, notre Dieu, a posé cette question à son serviteur. Il lui a demandé, est-ce possible que ces ossements puissent revivre? L'Éternel pose cette question au peuple. L'Éternel pose cette question au prophète. C'est parce qu'il sait qu'elle correspond exactement à celle qui est au fond du cœur des Israélites. Parce que, assurément, je pense que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à l'intérieur d'eux, même, ils se posent des questions. Est-ce qu'un jour, ils vont revenir la nation qu'ils étaient? Et effectivement, c'est le moyen de les associer plus directement à la scène qui va se passer. Et le prophète Ézéchiel, il a répondu, « Toi, tu le sais. » Mes amis, voilà la réponse souvent qu'on a du mal à donner quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Souvent, on a du mal à laisser à Dieu de faire les choses. On veut donner notre réponse. Ce n'est pas la réponse que Dieu attend, mais on veut donner notre réponse à nous. Mais Ézéchiel, étant que serviteur de Dieu, a eu l'intelligence, la sagesse de répondre, « Toi, tu le sais. » Et ici, là, le prophète confesse deux choses à travers sa réponse, « Toi, tu le sais. » Il confesse deux choses. L'une, c'est que toute possibilité humaine est écartée. Parce que quand il dit « Toi, tu le sais », il n'y a que Dieu seul qui le sait. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Là, il n'y a pas de possibilité humaine. Il n'y a personne qui peut le faire. Et l'autre, c'est que rien, non pas même cette résurrection, n'est impossible à Dieu. Vous voyez l'importance de la réponse d'Ézéchiel. C'est que l'homme ne pouvait pas ressusciter ses ossements. Mais Dieu, il peut les ressusciter. Et il va le faire. Ézéchiel a reçu l'ordre d'adresser ses paroles aux ossements. Aux ossements desséchés, entendez la parole de Dieu. Voici ce qu'a dit le souverain Seigneur Dieu à ses ossements. Et je n'ai pas besoin de citer tous les versets, comme vous avez votre Bible. Et comme par miracle, il se fit un puits. Dès que je prophétisais, et voici qu'il y eut une série de puits. Et des os commencent à se rapprocher, un os de son os. Les os desséchés furent recouverts de tendons, la chair et la peau. Voilà quelque chose, mes amis, que même les savants, même les grands docteurs, les grands spécialistes ne peuvent pas réaliser. Oui, les savants, les grands docteurs, ils ont la connaissance. Ils peuvent reconstituer une squelette, mais ils ne peuvent pas faire pousser des tendons, ils ne peuvent pas faire pousser de la chair. Tous les grands spécialistes, ils sont incapables de recouvrir les squelettes de tendons et de chair et d'y introduire les organes vitaux. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Il n'y a personne d'autre. C'est vrai, Dieu donne à l'homme des connaissances, de la sagesse, de l'intelligence, mais l'homme a des limites. Mais notre Dieu, il n'a pas de limites. Parce qu'il est le Tout-Puissant. En revanche, dans une vision, l'Éternel Dieu se révéla en train d'accomplir ce qui est humainement impossible. Mes amis, ça a dû être un spectacle vraiment effrayant pour Ézéchiel, parce que tous ces ossements qui reprennent de la chair, des tendons, alors, Ézéchiel, sous la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ordonna au vent de souffler. Non seulement les ossements, il y a les tendons, il y a de la chair qui pousse sur les ossements, mais il n'y avait pas encore la vie. Ézéchiel ordonna au vent de souffler sur les corps humains ainsi reconstitués, alors le souffle entra en eux. Et ils commencèrent à vivre et à se tenir sur les pieds. Mes amis, n'est-ce pas merveilleux? Des ossements desséchés. Ce n'était pas des squelettes. Au moins, les squelettes sont rassemblés. Un squelette est vraiment rassemblé. Il y a la forme. Mais des ossements. Dieu est Alpha et l'Oméga. Il est le Tout-Puissant. Notre Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Alors ce matin, j'aimerais bien nous poser cette question. Est-ce que à travers ce livre, à travers les prophéties d'Ézéchiel, est-ce que ce matin, parmi nous, il n'y a pas des gens qui sont morts? Quand je parle de mort, ce n'est pas la mort physique, mais je veux parler de la mort spirituelle. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne sont pas morts ce matin? Ce n'est pas étonnant qu'il y en a parmi nous qui sont morts spirituellement. Parce que ces ossements desséchés que Dieu a reconstitués, Dieu a mis la vie, cette résurrection, ce n'est pas la résurrection des morts. Ça, c'est une résurrection spécifique du peuple Israël. Ce n'est pas du tout, c'est deux choses différentes. Il y a la résurrection des morts et il y a la résurrection du peuple Israël, le peuple de Dieu, que Dieu va d'abord ressusciter, que Dieu va réunir. Mes amis, Ézéchiel, étant que prophète de Dieu, a eu le privilège de voir en vision la résurrection de la nation juive, la résurrection du peuple de Dieu, à savoir le peuple Israël. Mes amis, pour ce qui est de ces ossements, c'est toute la maison Israël. Voici qu'ils disent, nos os se sont desséchés, parce qu'il ne faut pas oublier au début, parce que quand Ézéchiel a prophétisé, quand Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser, effectivement, il y a un côté où Ézéchiel a fait le rattachement avec le peuple Israël qui se posait la question, est-ce que vraiment Dieu va nous rassembler? Est-ce qu'on va revenir sur notre terre? Pour ce qui est de ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Et le peuple a confirmé, Le peuple a dit, voici nos ossements sont desséchés et notre espérance a péri. Le peuple d'Israël n'avait plus d'espérance. Alors, voici ce qu'a dit le Seigneur Dieu. Il a dit, voici que j'ouvre vos sépultures et je vous ferai monter de vos sépultures, ô mon peuple, et je vous amènerai. Et je vous amènerai sur le sol d'Israël. Mes amis, moi je ne fais pas de la politique, mais à travers tout ce qui est en train de se passer à travers le monde, on peut constater que la nation juive, le peuple Israël, est en train de se reconstituer petit à petit. Alors, les Juifs exilés, qui étaient enclins au désespoir, devraient être ranimés par une nouvelle espérance fondée sur la sûre parole de Dieu. Mes amis, étant que prophète Ézéchiel, par sa prophétie, devrait contribuer à ranimer ces Israélites déprimés en leur donnant l'espoir de voir la restauration de leur cher pays. Et à des centaines de kilomètres, parce qu'ils sont dispersés partout, ils étaient dispersés. Ce peuple qui était en exil. Mais c'est Dieu qui, en insufflant son Esprit Saint aux Israélites repentants, allait en réalité les organiser et les ramener en les rendant impatients et désirés d'être rétablis sur leur propre sol. Oui. Il n'y a que Dieu. Parce que Dieu, il a fait la promesse à son peuple. C'est son peuple. Il a choisi son peuple. Il a fait la promesse et il va tenir sa promesse. C'est sûr et certain, Dieu va ramener le peuple d'Israël sur son territoire. Alors, la vision prophétique s'est accomplie en 537 avant notre ère. Le roi Cyrus, conquérant de Babylone, promulgua un décret autorisant les Israélites à quitter la Babylonie, lieu de leurs exils, et à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple de leurs dieux. Cyrus en attribuant la responsabilité à Dieu, le décret rapporté dans le 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 23, déclarait « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda qui d'entre vous est de son peuple. Que Dieu soit avec lui et qu'il monte. » Mes amis, vous imaginez un peuple qui était en esclavage. Le peuple n'avait pas le droit de retourner chez lui. Or là, le roi, il va frapper par la puissance de Dieu et là, il va autoriser le peuple à retourner chez eux pour construire le temple de Dieu. Mes amis, je ne sais pas, essayez d'imaginer pour voir qu'un peuple qui est en esclavage et que, par exemple, un esclave, son maître lui a autorisé de retourner chez lui pour aller construire la maison de son Dieu. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas par sa propre volonté que le roi Cyrus a accordé au peuple d'Israël ce privilège de retourner pour aller construire le temple de Dieu. C'est parce que la main de l'Éternel était sur le roi. C'est parce que Dieu lui a passé cette ordre. Dieu lui a demandé de laisser son peuple d'aller reconstruire son temple. Et effectivement, les Israélites se rendirent compte que c'était Dieu qui leur ouvrait les sépultures. Parce que le peuple était vraiment enfermé. Le peuple était dans une désolation totale. parce qu'il n'avait plus d'espoir de retourner un jour dans leur pays. Alors, aidés par des Israélites bien disposés, qui ne pouvaient quitter facilement Babylone, 42 360 juifs réagit favorablement à l'effusion de l'Esprit de Dieu et fut ranimé quant à la possibilité de repeupler les collines, les montagnes et les vallées du sol d'Israël. Alors, par cette annonce, il y avait 42 300 juifs qui avaient décidé de retourner, pour retourner en Israël pour aller peupler les collines partout. Alors, ils sont retournés pour aller rebâtir Jérusalem. Mais en même temps, il y avait des non-juifs qui acceptaient le privilège de se joindre à eux pour servir Dieu dans l'unité. Et si vous voulez avoir plus d'informations, c'est dans Esdras chapitre 2, le verset 64 à 67. Mes amis, c'était vraiment comme des forces militaires très très grandes. Oui, ces ossements étaient présentés comme des forces militaires, comme une armée. Tellement c'était nombreuse. Et tous ces ossements que Dieu avait ressuscités, tous ces hommes étaient des hommes vigoureux, des hommes en pleine forme. Mes amis, Dieu, il fait les choses en grand. Il ne fait pas les choses à moitié. Alors, l'accomplissement historique de la vision d'Ézéchiel de la vallée remplie d'ossements desséchés était tout aussi prophétique que la vision elle-même. La réalisation à venir fut en évidence dans le livre de la Révélation, écrit plus de 7 siècles avant la vision d'Ézéchiel. Le retour à la vie d'Israël spirituel y est décrit ainsi. Quand ils auront achevé le témoignage, la bête sauvage qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs corps seront sur la grande voie de la grande ville qui, au sens spirituel, est appelée Sodome et Égypte, là où le Seigneur aussi a été mis au poteau. Et ceux des peuples et des tribus et des langues et des nations regarderont les corps pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettent pas qu'on mette leur corps dans une tombe. Et ceux qui habitent la terre se réjouissent à leur sujet et se divertissent. Et ils s'enverront des dons les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté ceux qui habitent la terre. Mes amis, quand vous faites mal au peuple de Dieu, quand vous touchez un enfant de Dieu, vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Quand vous touchez à un serviteur de Dieu, vous aurez des comptes à rendre. Après la réalisation moderne de cette image prophétique d'Ézéchiel, le reste des Israélites spirituels chrétiens fut tué pour ce qui était de leurs œuvres consistant à prophétiser et à rendre témoignage publiquement et librement. Alors cela arrivera lorsque la persécution menée contre eux dans toutes les nations atteignit son point culminant, la dernière année de la Première Guerre mondiale. Ils se trouvaient alors dans une condition spirituelle semblable à celle des ossements desséchés. Alors ce peuple, le peuple d'Israël, le peuple juif, après la Première Guerre mondiale, ce peuple se trouvait dans une situation qui était comme les ossements desséchés que Ézéchiel avait vus dans les vallées. Symboliquement parlant, il devrait rester dans cette situation pendant 3 jours et demi, donc assez long pour que les cadavres deviennent raides. Toutefois, au printemps, de l'année suivante, en 1919, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et les ressuscita pour qu'ils se lancent de nouveau dans une activité publique vigoureuse en prêchant à toutes les nations cette bonne nouvelle du royaume. Alors, mes frères et sœurs, ce peuple, cette nation qui a été dispersée, cette nation qui a connu des périodes difficiles, des périodes tragiques dans leur vie, dans la vision d'Ézéchiel, Dieu a montré que cette nation va revenir à la vie. Cette nation va être prospère. Mes amis, souvent dans notre vie, on traverse des moments difficiles. Souvent, le diable nous touche par tous les moyens. Il nous fait des méchancetés. Souvent, on n'a plus d'espoir. Mais étant que chrétien, enfant de Dieu, il ne faut pas oublier que notre Dieu est là. Il va nous reconstituer. Il va nous ramener à la vie. Alors, la résurrection tant d'Israël selon la chair que d'Israël spirituel opéré par Dieu illustre avec force que ses promesses sont dignes de foi. Il est également intéressant de remarquer que les anciens hébreux, y compris Abraham, l'ancêtre des Israélites, croyaient à la résurrection des morts. À propos de la foi d'Abraham dans le pouvoir de Dieu de ressusciter les morts, nous lisons qu'il est le Père de nous tous, comme il est écrit, « Je t'ai établi Père de beaucoup de nations. » Alors ce fut au regard de celui en qui il avait foi, à savoir notre Dieu, qui fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu avait montré à son serviteur Abraham, bien avant, qu'il a le pouvoir, qu'il avait le pouvoir de ressusciter les morts. Et son serviteur, il a cru. Abraham, il croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Mes amis, la prophétie d'Ézéchiel, il faut bien comprendre, essayer de bien placer les choses. Avant Ézéchiel, il y avait pas mal de prophètes qui avaient prophétisé. Mais ils n'avaient pas touché globalement le sujet de la résurrection, de la reconstitution du peuple d'Israël. Mais dans les prophéties, ils avaient en partie parlé de cette résurrection. Et à coup sûr, tôt ou tard, Dieu va rétablir son peuple. Le peuple d'Israël va retourner dans son pays parce que c'est le peuple de Dieu. Et c'est Dieu qui, dans son plan, fait toutes choses. Il a son plan et il va mettre son plan en œuvre quand il veut, comme il veut. Et c'est pareil dans notre vie. Souvent, on est impatient. On veut atteindre un niveau élevé. Souvent, dans la vie de chaque jour, on est comme des étudiants. On veut devenir médecin. On veut devenir ingénieur. On veut devenir des grands, grands, grands architectes. Mais il y a des étapes. Première année, deuxième année, troisième année, ainsi de suite. Voilà le plan de Dieu. Dieu accomplit son plan, il met en œuvre son plan comme il veut. S'il veut le faire d'un seul coup, il va le faire. S'il veut prendre des dizaines d'années, il va prendre des dizaines d'années pour le faire. Alors dans notre vie, c'est sûr, on traverse des moments difficiles. C'est pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir qu'il nous laisse traverser ces épreuves. Peut-être qu'il veut vraiment nous apprendre. Peut-être que vraiment, il veut nous apprendre nos erreurs et prendre conscience de nos erreurs et lui demander pardon, confesser nos péchés. Mes amis, Souvent, on demande des choses à Dieu et on ne reçoit pas ces choses qu'on a demandées à Dieu. Et on voit des frères et des sœurs qui ont les choses qu'on avait demandées à Dieu. Et pourtant, le frère, il ne savait pas que vous avez demandé ça à Dieu. Mais ils l'ont. Et à ce moment, vous vous posez la question, est-ce que moi, je ne suis pas un enfant de Dieu? Est-ce qu'il est mieux que moi? Est-ce qu'il est plus fidèle que moi? Mais non, il ne faut pas penser comme ça. Au contraire, au lieu de se lamenter, il faut se mettre en question. Il faut se poser la question. Oui, Dieu, est-ce que je suis en état de recevoir ta grâce? Qu'est-ce que je dois faire pour recevoir ta grâce? Alors, ce matin, j'ai envie de vous dire que le peuple d'Israël va retourner dans son pays. Dieu va reconstituer ce peuple. Mais nous aussi, nous sommes tous des Israélites par la foi. Alors ce matin, il est important pour nous de marcher dans l'unité, de rejeter toute méchanceté, de rejeter toute division et de s'unir, de marcher main dans la main pour que la promesse de Dieu puisse accomplir à travers notre vie. Alors, bien que cette vision d'Ézéchiel ne devant pas être considérée comme une image de la résurrection des morts, comme je le disais, alors la vision d'Ézéchiel de la vallée pleine remplie d'ossements desséchés est conforme à la croyance en la résurrection. La réalisation de cette vision est une confirmation supplémentaire de l'espérance en la résurrection. Non seulement Dieu va ressusciter son peuple, le peuple d'Israël, mais nous, les serviteurs de Dieu, les croyants, ceux qui nous ont devancés, un jour, Dieu va les ressusciter. Alors ce matin, je nous invite à prendre cette décision. Je vous invite vraiment ce matin à prendre cette décision de suivre Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. C'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, c'est facile à dire. Mais je suis comme vous ce matin. Je suis dans la même démarche que vous. Ce matin, je crois qu'il est vraiment important pour nous tous de se tourner vers Dieu, d'implorer sa faveur, de lui demander pardon, de confesser nos péchés. Parce que il n'y a que Dieu qui peut faire toutes choses. Et Dieu n'oublie jamais ses promesses. Que Dieu vous bénisse. Amen.